Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. On est très heureux d'être avec vous à 9h. On a parlé du Paris Saint-Germain. Est-ce que cette belle victoire face à City change votre regard sur le club parisien? Vous pouvez aller réécouter tout ça en podcast. On a également parlé de la lourde chute hier d'Alexis Peintureau. Beaucoup, beaucoup de débats encore avec Simon Dutin, Denis Charvet, Sarah Pitkowski et David Douillet. Dans quelques instants, le 15 de France qui débute son tournoi à destination dans une semaine. Le manque de titres de ce 15 de France, est-ce que c'est un problème? Les GG ne sont pas d'accord. S'il vous plaît les gars, ne sifflez pas un joueur quand il abandonne à cause d'une blessure. Sacha Zverev est monté au créneau hier pour défendre Novak Djokovic. Ce sera la punchline des GG à 10h30. Comprenez-vous les sifflets du public australien contre le Serbe? Ce sera notre question. Et là encore, vous n'êtes pas d'accord les GG. Et puis à partir de 11h, évidemment l'un des débats de la semaine, la baisse du budget des sports prévu pour 2025. Le sport français est vent debout contre cette mesure, contre cette baisse. Est-elle incompréhensible, cette diminution du budget des sports? On se posera la question. Allez, un petit détour par l'Open d'Australie avec Eric Salio, la finale dame à Melbourne. Pour l'instant, c'est sens unique.
Ah oui, 5 jeux à 1 pour Madison Keys, c'est un pur régal, festival de tennis offensif. Elle s'appuie sur une première balle qui est extraordinaire, puis Zabalenka, elle commence à être en panique. Donc 5-1, Zabalenka est au service à 40, elle vient déjà de sauver une balle de 7.
Ok, peut-être la balle de 7, la première, enfin la deuxième pour Madison Keys dans quelques instants. Pas tout de suite, ok, on reviendra te voir mon cher Eric. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Nicolas Machiavel, qui a dit un jour, ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le titre.
RMC, le bras de fer GG.
On a vécu un tournoi d'enfer.
C'est terminé, victoire de l'Irlande, ah ouais. 38-17.
Quand on a vu les images, ça nous a fait mal.
5 essais à 2 pour les Irlandais qui prennent le bonus offensif.
Au niveau international, c'est le chaos, donc il faut vivre le chaos ensemble.
Beaucoup d'impuissance ce soir pour l'équipe de France qui a pris quasiment une raclée contre l'Irlande, 38-17.
C'est des joueurs qui en fait boxent 12 rounds sur 12. Ils lâchent pas un round en fait. Sauf qu'ils ont arrêté de boxer après le 11e round. Ils nous ont laissé le 12e round pour boxer. Et l'équipe qui savait qu'il fallait boxer 12 rounds a boxé le 12e round.
C'est fini. En quart de finale de sa Coupe du Monde.
Toutes les grosses performances qu'on a fait, à un moment donné, les Saint Grégaire, on est des Gaulois.
Allez les Gaulois, J-6 avant le grand début du tournoi des Six Nations 2025. Les Bleus reçoivent pour débuter le Pays de Galles vendredi soir prochain, donc au Stade de France. Des Bleus qui vont tenter de remporter leur deuxième tournoi sous l'ère Galtier, malgré une génération incroyable. Un nombre de victoires record. Le 15 de France est en mal de titre avec son sélectionneur. Un grand chelem, oui. 4 deuxième place. Et évidemment, vous l'avez entendu, on aime bien se faire mal, cette cicatrice lors du Mondial 2023 avec cette défaite en quart de finale. Le manque de titres, le manque de palmarès du 15 de France. Est-ce un problème? Dans le coin gauche, la team, oui, c'est un problème. Simon Dutin, Sarah Pitkowski. Dans le coin droit, la team, non. Ce n'est pas un problème. Denis Charvet, David Douillet, on vous a posé cette question sur le compte Twitter, sur le compte X des grandes gueules du sport. Je préserve le suspense, il y a une énorme surprise. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC, Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Alors déjà, il faut le dire, hein, on ne veut pas être trop négatif, évidemment. Les Bleus se sont remis la tête à l'endroit cet automne, mais ils le savent désormais, il faut étoffer le palmarès.
Oui, et Fabien Galthié nous le disait l'an passé à la fin du tournoi, il en manque, il nous avait dit 1 sur 5, tu l'as dit, ce n'est pas en lien avec ce 15 de France qui bat à nouveau les plus grands depuis qu'il est à la tête de cette équipe, hein. L'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre ou l'Afrique du Sud ont tous été battus depuis 2020, et donc Fabien Galthié essaye de défendre son bilan global.
En rugby, le problème, c'est que nous, enfin, le problème qui fait la beauté de notre sport, c'est que nous, tous les matchs sont des test matchs. On a les tournées d'automne où on cherche à gagner les matchs et à gagner l'aller-retour avec les équipes. Combien de tournois? On a joué 5 tournois. Sur les 5 tournois, on en a gagné un, Grand Chelem, et les 4 autres, second. Je peux pas imposer une injonction. Mais bien sûr qu'on a envie de gagner tous les matchs, et bien sûr qu'on a envie de gagner le tournoi, et bien sûr que les tournois auxquels on va participer, pour nous, c'est une volonté collective. C'est-à-dire, nous, le staff, on se prépare pour ça, les joueurs, ils attendent que ça. On veut gagner le tournoi, bien sûr.
Mais on dit souvent qu'avec cette génération, ce n'est pas assez. Enfin, on dit, c'est le manager toulousain Hugo Mola qui, dimanche dernier, au soir de l'écrasante victoire de son équipe sur Leicester 80-12, était interrogé sur ses nombreux joueurs sélectionnés et qui a glissé cette réflexion.
Et je vous rappelle qu'ils ont fait juste un grand chelem en 5 ans, cette génération. Donc il faudrait peut-être qu'ils se bougent un peu. Ouais. Ça, c'est pas mon problème, sincèrement. Je leur laisse. Mais oui, un grand chelem en 5 ans.
Mais cette petite pique qui est finalement partagée par le patron des Bleus. Le patron sur le terrain, on précise. Antoine Dupont et la frustration, écoutez.
Sur les 5 dernières années, on finit 4 fois second. En cette Coupe du Monde, on perd en quart. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de déceptions quant au palmarès de cette équipe, au vu de son potentiel. Et c'est cette frustration, il faut qu'elle se transforme en motivation et que ça nous pousse.
Et son compère Thomas Ramos va même plus loin. Ce sera difficile d'avoir de l'ambition pour la Coupe du Monde en Australie en 2027 si le 15 de France ne remporte pas le tournoi d'ici là.
Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui nous manque, de gagner des titres, parce que des titres, il n'y en a qu'un à gagner. Durant une saison en équipe de France, c'est le tournoi destination. Donc c'est peut-être ce qui nous manque aussi pour franchir un cap, gagner des destinations. Si on arrive à gagner des compétitions sur les 3 tournois qui restent avant la Coupe du Monde, peut-être qu'on arrivera avec un statut de favori. Si on ne gagne pas de tournoi sur les 3 années qui arrivent, à mon avis, ce sera difficile d'être parmi les favoris de cette Coupe du Monde.
Et le défi est déjà grand cette année. La dernière fois que la France a remporté le tournoi destination en année impaire, c'est-à-dire avec déplacement en Angleterre et en Irlande, c'était en 2007.
Merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. C'était très intéressant ce reportage. Vous avez bien entendu les joueurs du 15 de France, aussi Hugo Mola qui a été très bon en conférence de presse. Alors je m'attendais pas à une telle unanimité sur le compte X des grandes gueules du sport. On vous a posé la question, chers auditeurs, le manque
je
de titres.
Mal avec David.
Est-ce que c'est un problème? C'est
mais
oui
non.
À 76%
de 24.
Non. Alors Denis Charvet, David Douillet, vous le savez, vous êtes derrière, donc vous allez commencer parce que vous avez du boulot. Denis, vas-y. Pourquoi non?
Écoute, et je comprends le oui parce que c'est une frustration de.
Moi, je te demande de défendre le non quand même.
Oui, oui, mais je veux le défendre.
Me donne pas les arguments du oui quand même.
Non. Je comprends le oui dans le sens où ça vient d'une frustration par rapport à une génération exceptionnelle, peut-être la meilleure génération de tous les temps. Dans ce sport et dans le sport français, mais la vérité c'est que la concurrence elle est là. La concurrence, tu finis quand même, tu fais un grand chelem, tu fais 4 fois de second et tu fasses à une équipe irlandaise qui peut être la meilleure équipe irlandaise de tous les temps. Donc moi je veux bien. Le tournoi est devenu de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. On le voit. Et sur les 4 fois où tu finis second, tu finis sur des points par rapport à des points de bonus défensifs ou offensifs. Wilfried peut m'aider, mais
ouais, à la différence aussi. La première année.
On la verra. Ce qui veut rien dire en fait. Enfin, ce qui veut rien dire.
Ah oui, mais tu gagnes ou tu gagnes pas,
oui,
à un moment donné. Il faut
faire
champion.
Oui, mais t'es obligé d'en prendre de compte aussi de cette. T'es pas en bas, quoi. T'étais toujours prêt.
C'est pas ce qu'on a dit, hein.
Après. Une génération exceptionnelle veut pas dire des résultats exceptionnels. Je suis désolé. Le rugby.
Si tu fais des résultats exceptionnels avec des joueurs qui sont pas exceptionnels, alors là.
En rugby, c'est un sport d'équipe. C'est pas la même chose, justement. C'est pas un sport individuel où le plus fort gagne. En rugby, c'est pas tout le temps le plus fort qui gagne. Je suis désolé.
Au contraire, justement, c'est le sport par excellence où c'est le plus fort qui gagne, quand même.
Quand tu joues l'Irlande en Irlande ou que tu joues ces équipes-là, tu sais très bien que tu
Alors, t'as
l'exemple du quart de finale contre l'Afrique du Sud. Tu les domines tout le match, tu perds.
Oui.
Ça t'arrive de perdre. Ça peut être l'arbitrage, ça peut être il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je veux dire, le rugby, c'est pas comme le tennis où c'est plus facile
Non, mais ça se compare pas à un sport individuel, mais
c'est pas parce que c'est un sport collectif que c'est plus compliqué, justement. Tu peux pas demander à une équipe.
Mais compare avec le foot, alors. C'est pas les meilleurs.
Mais regarde le foot, les équipes de France de foot, elles ont tout le temps gagné.
Ils n'ont pas tout le temps gagné, mais ils ont déjà gagné un peu plus que le 15
ans. On ne se pose plus la question de savoir s'il faut enfin gagner une Coupe du Monde. On ne se pose plus la question de savoir s'il faut. Est-ce qu'à un moment donné, ça pèse sur un groupe, quoi. C'est-à-dire le manque de titres. C'est ça notre question. David va peut-être venir au secours de Denis. Après, vous allez pouvoir répondre évidemment.
C'est tout.
David.
Je comprends qu'il y a beaucoup d'attentes parce que la qualité de l'équipe du 15, elle est là, quoi. Si on prend les joueurs de manière individuelle, on sait qu'on a des très grands joueurs et on reste sur notre faim. Malgré tout, et Galtier le précise souvent, ils ont gagné 19 matchs, perdu 5 fois et un match nul, quoi. Enfin, tout n'est pas acheté, quoi. Voilà. Ok, ça se traduit par un seul grand chelem. Ça se traduit par une Coupe du Monde vraiment plus qu'en demi-teinte. Mais les joueurs. Enfin, j'ai pas l'impression que les joueurs soient de mauvaise comment dire, dans les mauvaises dispositions. Ils font le maximum et comme le dit Denis, le niveau il est là, il est fort.
On se rend pas compte du niveau, c'est ça le problème.
Et voilà,
c'est facile de juger en disant ils n'ont rien gagné. Mais vous vous rendez pas compte du niveau du Six Nations aujourd'hui.
Non, on n'a pas dit qu'ils n'ont rien gagné. C'est contenu. On n'a pas dit qu'ils n'ont rien gagné.
Ils n'ont pas gagné suffisamment.
Ils n'ont pas gagné suffisamment puisque il faut quand même être cohérent. C'est-à-dire que la génération, on a le meilleur joueur du monde, on a certains des meilleurs joueurs du monde à chaque poste. On a quand même un sélectionneur qui a sélectionné une pléthore, mais une pléthore de joueurs français. C'est pas comme s'il avait 50 joueurs à disposition. Il en a sélectionné, il en a convoqué 176.
Ça veut rien dire,
Les
Irlandais, ils ont très peu de joueurs, ils ont la même équipe tout le temps.
Il y en a plus de 100 qui ont été capés en 5 ans. On a sur les 4 dernières années de votre Champions Cup, de la Coupe d'Europe, je ne sais plus comment elle s'appelle, on a 2 clubs français qui ont gagné les 4 dernières éditions, donc avec des joueurs français dans leurs effectifs. Et là, pardon, mais si je suis pragmatique, tu te dis, mais alors je ne comprends pas comment on n'arrive pas à transformer des joueurs qui jouent dans les mêmes clubs ensemble, pourquoi on n'arrive pas à les
transposer. Parce que c'est pas la même chose.
Ah bah oui, mais moi je veux bien comprendre pourquoi c'est pas la même chose.
Mais si on les transpose. Sélection, c'est pas du tout un club.
Si il y en a un qui joue à Clermont, l'autre à
des choux et des carottes, tu peux pas comparer une équipe de club à l'équipe de France, à une équipe nationale.
Oui, mais vous avez raison, ils jouent déjà ensemble.
Mais ils jouent ensemble, mais pas tous.
Mais oui, mais les autres aussi.
Mais non.
Tu peux pas comparer. Non, mais une équipe nationale, c'est une addition.
Je sais,
tu parles de club. Mais une équipe nationale.
Il y a plus de chances. Il y a quand même plus de chances que s'il y en avait 33 qui venaient de 33 clubs différents.
On a compris, Sarah. Mais sincèrement, pour les autres, c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas une équipe, l'équipe d'Irlande, c'est pas un club, tu vois. Oui. Donc, l'alchimie.
David, quasiment, justement.
L'alchimie qui fait que on a d'un seul coup une équipe nationale qui fonctionne à plein. Je crois qu'on l'a. On a joué 25 matchs ensemble. On en a gagné 19. Faut vous rendre compte du truc. Le problème, c'est que ça se traduit pas par des titres. Ok, d'accord. Dont acte. Mais je suis désolé. L'équipe de France, par rapport à son potentiel, elle est là. Elle est présente. Elle est pas en dessous de son potentiel.
Ah, mais non, on est
sauf
d'accord.
Que les autres, ils sont là aussi. C'est ça, le truc.
Non. Les autres, ils sont les là. Autres, mais David, je vais revenir te voir et pense à cette question. Toi qui as été, évidemment, un grand champion. Ok, c'est dans un sport individuel. Mais à un moment donné, quand tu n'as pas assez de titres, peut-être que ça gamberge aussi dans la tête par rapport au.
Mais bien sûr que ça joue.
Par rapport, évidemment.
Mais c'est pas la question, c'est pas le débat.
Ah bah c'est la question. Non. Est-ce que c'est un problème? Ah bah si, mais c'est totalement la question. Par rapport.
Ça peut le devenir.
Par rapport à leur niveau, ne jamais gagner de titre, est-ce que c'est un problème? On reprend ce débat dans quelques instants, on va écouter Simon Dutin, évidemment. Mais juste, premier set pour l'américaine Madison Keys, Eric Salio à l'Open d'Australie.
Ah, 6-3 en 35 minutes, totalement mérité avec beaucoup de coups gagnants. Et puis, il faut que Zabalenka rectifie le tir, surtout au service, parce que 4 doubles fautes à des moments pas bons, c'est pas bon du tout. Donc, un 7-0 pour Madison Keys. Elle est à une manche, peut-être à 3 quarts d'heure de son premier titre majeur à 29 ans.
Voilà, tout à l'heure, Eric. Simon Dutin, pourquoi c'est un problème, le manque de titres?
Je te remercie de me donner la parole. Alors là, un bras de fer contre un David Douillet, appellation d'origine contrôlée, là, vraiment. Excuse-moi David, mais alors ils ont fait leur maximum, bravo à ces champions quand même, la deuxième place c'est quand même super au très haut niveau, ils ont quand même gagné 19 matchs.
Deuxième place quand
je reconnais là évidemment l'admiration de David pour ses pairs, évidemment parce que ce sont de grands champions, il n'est pas question de remettre ça en question David ou Denis, mais on a le meilleur joueur du monde, indiscutablement. Pour moi, derrière Antoine Dupont, Thomas Ramos, c'est le deuxième meilleur joueur du monde à l'heure actuelle.
Le meilleur buteur
on a.
Mais là, tu vas dans notre sens.
On a une génération qui s'est construite pour une certaine ossature dans les catégories de jeunes, qui a appris dès les catégories de jeunes à gagner avec ce titre mondial des moins de 20. Tu rajoutes quelques éléments talentueux là-dedans. Un sélectionneur qui a apporté, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le mysticisme un peu dans les propos de Fabien Galthié, une vision. voilà. Il parle souvent du chemin, du fameux chemin emprunté. Bon, il nous a tous emmenés avec lui, hein, Galtier. Mais bon, au bout d'un moment, et surtout à la lumière du grand chelem légendaire, il n'y a pas à revenir là-dessus, qu'ils ont réalisé. Bah, oui, t'en attends plus. Évidemment, t'en attends plus. Alors, on peut discuter sur est-ce que c'est un avantage, un inconvénient que ce soit un sport où au très haut niveau, la densité est vraiment constituée par quoi ? Allez, 10 nations. Il y a 10 nations qui peuvent vraiment se regarder les yeux dans les yeux. Mais bon, les Néo-Zélandais, ils avaient le même problème avant d'enchaîner 2 victoires en Coupe du Monde consécutivement. Bon, eh ben, on se disait, mais c'est pas possible. Ils rincent tout le monde à longueur d'année et ils n'arrivent pas à décrocher le Graal. Donc, au bout d'un moment, oui, quand tu domines, que tu montres que tu es vraiment supérieur aux autres nations, ou qu'en tout cas, tu peux les regarder dans les yeux, bah, ça pose un problème de ne pas concrétiser.
Mais c'est pas parce que tu as le meilleur joueur du monde. Tu vas pas le faire croire quand même.
Les Anglais ont les Coupes du Monde, on n'en a pas. Une nation de l'hémisphère nord, et ça vaut
aussi
pour l'Irlande. Mais l'Irlande, contrairement à ce que dit David, voilà, s'appuie sur une ossature. Les mecs, ils jouaient tous au Leinster. Ils avaient Sexton qui menait tout ça d'une main de maître. Mais il en manque. Il manque, si c'est pas des Coupes du Monde, il manque des grands chelems. Je suis désolé. Il manque des victoires en tournée d'été en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Parce que, bon, même si c'est pas vraiment des trophées qui parlent au grand public, ça reste des marques importantes, des bornes importantes dans l'histoire d'un sport comme le rugby. Donc oui, il en manque. Après, l'objet du débat, c'est quand même pas de remettre en question ni le niveau des joueurs du 15 de France, ni ce qu'il a accompli. Et j'entends aussi, pour en terminer, le débat sur la comparaison entre la domination des clubs français en Champions Cup et qui n'arrivent pas à se retranscrire. J'entendais Hugo Mola, là, parce que j'ai lu une partie de sa conférence. Il est marrant, Mola, parce qu'il dit ouais, c'est vrai, il en manque. Il est le premier à dire aussi que, souvenez-vous, les Anglais, ils ont fini devant nous quand même à la Coupe du Monde. C'est des mecs qui sortent des joueurs tous les ans, ils ont un réservoir, ils ont machin. Donc attention, c'est pas si facile que ça. Donc ouais, c'est compliqué. Mais Dupont & Co mérite mieux quand même en termes de palmarès.
Oui, Wilfried Templier.
En fait, l'équipe de France, ça se joue. Alors, c'est le très très haut niveau pour gagner les titres, et c'est les détails qui manquent à cette équipe de France. Fabien Galtier a fait 54 matchs à la tête de cette équipe, il en a gagné 42. Donc, pour moi, l'équipe de France, il lui manque 4 rendez-vous en gros. En 2020, on perd le tournoi. En fait, souvenez-vous, c'est un détail qui est passé un peu inaperçu, mais le dernier match, c'est le premier de l'ère Galtier. Souvenez-vous, on roste les Anglais, on leur met quasiment une tôle, mais à la fin, ils viennent chercher un bonus défensif parce qu'Antoine Dupont croit que c'est fini et dégage le ballon en ballon mort, et les Anglais viennent chercher un point de bonus défensif qui fera qu'ils gagnent le tournoi. Ça, c'était en 2020. En 2021, on perd chez ces Anglais en ne maîtrisant pas la fin de match. Deuxième rendez-vous. On fait le grand chelem en 2022. Et en 2023, il y a le match en Irlande où on est un peu surclassé. Et évidemment, le quart final face à l'Afrique du Sud. Et en fait, sur l'ensemble de ces 54 matchs, il y a 4 rendez-vous. C'est vraiment pas grand chose.
Oui, mais c'est des clés.
Juste pour finir. Non, mais c'est 4 rendez-vous qui, voilà, c'est les plus importants. Sur la route de la Coupe du Monde, comme l'a dit Ramos, sur la route de la Coupe du Monde en 2027 en Australie, c'est ces matchs-là qu'il faudra gagner pour prétendre être champion du monde.
J'allais voir.
Voilà. Il manque pas grand chose, mais les petits détails font que on n'a pas le même palmarès.
Je voulais justement voir Denis sur ce qu'avait dit Thomas Ramos. Tu l'as entendu il y a quelques instants. Il dit non, mais si on gagne pas des grands chelems, on sera pas du tout favori à la Coupe du Monde.
Ce qu'il a dit, c'est ce que je pense aussi, même aujourd'hui.
Mais tu me dis que c'est pas un problème de pas gagner des.
Oui, mais en route vers la Coupe du Monde 2027, oui, il va falloir gagner pas forcément des grands chelems, mais des tournois, des titres, on va dire.
Oui, oui, bien sûr.
Et là, oui, ça suffit pas de gagner des tournois d'automne.
Il retourne quand même pas mal sa veste depuis ce matin, Denis.
Hein. Bah, il a vu où était le peuple, hein.
Je suis tolérant parce que justement, quand Wilfried te fait
Parce que c'est ton sport.
Mais non, pas du tout.
Il est tolérant jusqu'à maintenant, Denis.
Mais non, parce que t'avances des arguments qui me plaisent, mais en même temps, ça justifie pas le fait que tu gagnes pas de titre. Mais c'est vrai que tu passes toujours très près et que à l'arrivée, t'as plus qu'un titre en 5 ans.
Il y a Hervé qui veut réagir au 32-16. Bonjour Hervé.
Bonjour à tous.
Salut Hervé.
Bon, tu es dans quel camp, toi ? Plutôt le camp du oui ou du non ? Manque de palmarès, est-ce que c'est un problème ?
Je pense que si on se rate dans le tournoi, on va commencer à se poser des questions parce que c'est le seul club qui. C'est le seul, pardon, la seule sélection qui n'arrive pas au niveau de sport qu'on peut comparer. C'est-à-dire qu'on a été capable d'être champion en foot, en basket. En handball, alors le handball est un vrai exemple où être au haut niveau régulièrement, on est capable de le faire. Je trouve qu'aujourd'hui, Sarah a bien résumé les choses. On a le meilleur championnat du monde. ça fait 4 années consécutives qu'on gagne la Champions Cup. On a le Stade Toulousain, l'UBB, pour les nommer, qui viennent de mettre des scores incroyables aux équipes européennes. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'équipe de France doit gagner. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut être champion du monde en Australie, il faudra gagner les grands chelems avant. Et comme je l'ai dit il y a quelques semaines de ça, quand j'étais intervenu, les plus belles victoires se font aussi dans l'adversité. Donc si on gagne en Irlande et si on gagne en Angleterre cette année, on va se positionner et à partir de là, on va pouvoir bâtir. Mais à un moment donné, je pense qu'on a des joueurs qui ont la culture de la gagne, Dupont entre autres, mais tout l'équipe du Stade Toulousain, c'est des gens qui veulent gagner. Et aujourd'hui, on ne peut plus trouver d'excuses. Il faut que l'on puisse avoir des titres alignés année après année dans le rugby. On a un tel niveau que c'est pas normal que, contrairement aux autres sélections nationales, on soit pas capable d'avoir un palmarès plus important.
Ok, il faut des... Vas-y, rapidement, Hervé.
Et dernière chose, je ferai un petit clin à David Douillet, qui a une très très belle famille qu'on a pu voir à la télé. Et comme lui, je suis un gros bébé, ça m'a mis l'arme à l'œil.
Ah, c'était dans quoi? Dans Danse avec les stars, non? Tu l'as vu quand, la dernière fois?
Non.
Avec toute sa famille.
Il le saura. Ils sont venus chanter pour lui il n'y a pas très longtemps.
Ah, d'accord. Télé. Très bien, parfait. Bon, ça n'a pas encore été diffusé, c'est ça, David?
Si.
Bah, c'était quoi alors? C'était quelle émission?
C'est la boîte à secrets sur France 3.
Ah, ça m'avait échappé, mon cher David. Très bien. Merci, Hervé, d'avoir été avec nous. Bon, il faut des titres, hein. C'est ce que vous nous dites, principalement aussi sur le compte X. On va arrêter, évidemment, la consultation, le sondage. Nous sommes désormais à 77-23.
Donc, on a gagné.
Ah oui, vous avez largement gagné, oui. Oui, je pense.
C'est la facilité, c'est de répondre oui, hein. Je d'accord. Ouais.
Sauf que, ouais. De but en blanc, tu m'as tout de suite dit, mais non, c'est pas du tout un problème.
Parce que je t'ai aidé encore une fois. Voilà.
T'as été le premier à répondre.
David, on dit oui, tous les deux, c'est bon.
Merci Wilfried d'avoir été avec nous. Vendredi soir prochain, évidemment, tu seras au commentaire avec Denis, avec Christophe Cessieux de France Pays de Galles au Stade de France pour débuter le tournoi des Six Nations. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Les sifflets contre Novak Djokovic. Est-ce que vous arrivez à les comprendre? Là encore, vous n'êtes pas d'accord, mais GG, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Denis Charvet, Sarah Pitkowski, David Douillet dans 10 minutes. Les GG contre-attaque, mais GG, vous avez proposé 4 débats et pour l'instant, Denis Charvet est en passe de largement s'imposer avec son débat sur Lewis Hamilton chez Ferrari. Faut-il vraiment y croire, lui qui a fait ses premiers pas cette semaine avec la Scuderia. On en parlera vraisemblablement dans 10 minutes, mais vous pouvez encore aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Mais là, nous passons au tennis et surtout à ce qui s'est passé hier. Je t'aime, moi non plus. Voici comment on pourrait résumer la relation entre Novak Djokovic et le public australien. Nouvel épisode hier lors de la demi-finale du Serbe face à Sacha Zverev. Djoko abandonne après le premier set. Le public le siffle, vous l'avez entendu. Zverev prend le micro, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
La première chose, s'il vous plaît les gars, ne sifflez pas un joueur quand il sort blessé. Je sais que tout le monde a payé pour des billets, pour voir un grand match en 5-7, mais Novak Djokovic a donné à ce sport tout ce qu'il avait au cours des 20 dernières années. S'il vous plaît, soyez respectueux, montrez un peu d'amour pour Novak.
Ah, de l'amour pour Novak, c'est pas la première fois que on se pose cette question. Notre débat, comprenez-vous les sifflets contre Djoko, oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Bah t'as le droit, c'est comme tu veux.
Ouais.
Denis Charvet.
Bah non.
Bah non. David Douillet. David, est-ce que t'es là, mon David? David, une fois.
Je suis là. Non, je suis là. Excusez-moi. Non. J'avais coupé mon micro. Non, je dis non.
Non, surtout pas. Sarah Pitkowski.
Oui.
Oui, j'ai l'impression que c'est encore un match entre David Douillet.
Ça m'étonne de Sarah.
Denis Charvet.
Tu vas voir les arbres.
Je suis très étonné. Hein.
Alors, on va débattre dans quelques instants. Juste, on va retrouver notre envoyé spécial à Melbourne. C'est Eric Salio. Rebonjour, Eric. Décidément, depuis que Novak Djokovic a affirmé avant le tournoi qu'il avait été empoisonné en 2022 en Australie, l'atmosphère est toujours tendue autour de lui.
Ouais, enfin, je pense surtout que ces sifflets traduisaient la déception d'une centaine de spectateurs qui s'estimaient lésés, d'autant que personne n'a rien vu venir. Hein. Une fois que le Serbe a raté sa volée de couloir qui était immanquable à la fin du tie-break, sa décision était prise et a totalement estomaqué la Rod Laver Arena. Avant de s'engouffrer dans le tunnel, Djoko s'est retourné, il a toisé le public et levé les deux pouces. Sa conférence de presse n'a pas duré très longtemps et c'est devant les reporters serbes qu'il a évoqué les fameux sifflets.
Je ne sais pas quoi dire. Les gens sont venus, ils ont payé leur billet en espérant un grand match et un grand combat, ce qu'ils n'ont pas eu. De ce point de vue, je peux comprendre, je fais de mon mieux pour les comprendre, mais je ne suis pas sûr qu'ils me comprennent ou même qu'ils veuillent me comprendre. Je sais comment mon corps fonctionne, je sais ce que je ressens et je sais tout ce que j'ai donné à ce tournoi au cours des 20 dernières années. Je vais m'arrêter là pour ne pas continuer à parler dans la mauvaise direction.
Victime d'une déchirure musculaire, Novak Djokovic a tenté sa chance, mais le scénario ne lui a pas souri. Contrairement à 2023, il n'a pas pu gérer cette blessure, contractée mardi soir face à Alcaraz, et Zverev a de nouveau douché les quelques critiques.
Novak connaît son corps mieux que quiconque. C'est aussi simple que cela. Que peut faire un médecin? Je sais par son équipe qu'il prenait déjà des antidouleurs. Il sait que c'est une blessure qu'il a déjà eue. Donc d'accord, il va appeler le médecin. Mais pour lui dire quoi exactement? À un moment donné, il y a aussi une limite à la quantité de médicaments que l'on peut prendre. Je pense que nous devrions arrêter de blâmer Novak. Il a fait absolument tout ce qu'il pouvait faire sur le court de tennis au cours des 20 dernières années. Il a gagné ce tournoi avec une déchirure abdominale. La plupart des joueurs n'auraient même pas pu continuer à jouer. C'est un champion qui a gagné 10 fois ici. Je pense que nous devrions tous respecter cela d'une certaine manière parce que personne dans l'histoire de ce sport n'a gagné et n'a fait autant que lui. Je pense donc qu'il n'y a rien d'autre à ajouter.
Sur les réseaux sociaux, Novak Djokovic a souhaité bonne chance à Sacha Zverev. Il a espéré qu'il gagne, on comprend mieux pourquoi. Mais franchement, on en est à se demander si Novak Djokovic reviendra en 2026. Il aura 38 ans et le temps ne joue pas en sa faveur.
Comprenez-vous les sifflets contre Djoko? C'est notre débat. J'ai deux oui, deux non. On va commencer avec Sarah. C'est vrai que je suis assez surpris. Pourquoi oui, Sarah?
Moi, je suis depuis toujours fan du personnage Djokovic, de son tennis. Mais... alors, même si c'est, comme le dit Eric, peut-être allez, une centaine de spectateurs qui ont sifflé, c'est ceux qui ont fait le plus de bruit par rapport aux applaudissements. Je pense qu'il faut le voir de manière plus globale. Ces dernières années, ces deux dernières années, peut-être depuis son titre, son dernier titre à l'US Open en 2023, Djoko développe et affiche un caractère qui est quand même extrêmement vindicatif sur le terrain de tennis. Et aujourd'hui, les images, les interviews, les petites phrases, elles font le tour du monde. Elles ne sont pas uniquement adressées aux spectateurs qui sont dans un stade, puisqu'avec les réseaux sociaux, ce sont des choses qui tournent en boucle. Et je suis obligée de constater qu'il enchaîne quand même un certain nombre de maladresses. Et ces maladresses-là, le public lui ces maladresses-là, ils lui font payer au fur et à mesure de son circuit. Déjà la première chose quand tu arrives en Australie, certes, cette histoire de Covid avec Djokovic où on le laisse rentrer alors qu'il n'a pas son vaccin, ça a été un épisode terrible.
Oui, mais
d'arriver en Australie, là où il a gagné 10 fois, là où il a le public, il a un pays dans sa poche, qu'est-ce que tu vas dire?
Oui, mais les Australiens lui ont pas pardonné, tu comprends, c'est
oui,
un problème
qu'est-ce
de
tu vas le dire maintenant? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire alors qu'effectivement tu as un présentateur idiot qui critique les supporters serbes? Pourquoi il ne répond pas à Jim Courier, l'intervieweur sur le court? En fait, c'est des petites choses qui parsèment sa carrière. Il a toujours été un peu comme ça. Et aujourd'hui, quand on l'applaudit pas, on n'applaudit pas la blessure. On applaudit ce joueur qui commence à être vraiment paradoxal
oui, comme
à travers
parce qu'il
le
gagne
monde.
Pas en fait, non. C'est ça qui est
parce
terrible.
Parce que quoi?
Parce qu'il gagne pas. Tu réagis comme ça parce qu'il gagne
mais
pas.
Oui,
il gagnerait l'Open d'Australie.
Mais parce qu'il gagne de moins en moins. Il gagne de moins en moins.
D'accord. Mais
et qu'aujourd'hui il n'y a pas de comportement faire là-dessus.
Oui, mais Sarah,
et on lui fait payer.
Mais
voilà.
C'est son moteur. Tu l'as dit. Je comprends pas ton raisonnement parce que son moteur.
Moi, je comprends les gens qui sont dans les tribunes.
Depuis qu'il a 20 ans,
il se nourrit
de ça.
Oui, lui, oui. Mais les spectateurs, non.
Et la vérité, c'est que il est plus aimé que mal mal aimé dans le monde, je parle, dans le monde entier. Il y a des, c'est vrai que parfois il énerve, il crispe, il agace. Je reconnais ça. Moi, je l'adore parce que je trouve que c'est un grand champion, un immense champion.
Et moi aussi.
Et le fait qu'il se nourrisse justement de ces conflits de temps en temps.
Mais là, on parle pas de lui. On parle pas de lui, Denis. On parle de la perception des spectateurs. Pourquoi a-t-il été sifflé?
Parce que c'est l'Australie. Parce qu'il ne pardonne pas le Covid.
Voilà, c'est ce que je viens de dire.
Mais c'est rien, quoi. Pour moi, c'est une goutte d'eau.
Ok, David Douillet, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Vas-y, David.
Ah, c'est beaucoup plus simple que ça. On a des gens qui sont venus voir un grand match et ils assistent pas au match. Le match est coupé. Voilà, ils sont déçus. Et je trouve que c'est de l'égoïsme, quelque part. Le mot est là, est clair et net et peut-être fort, mais les spectateurs sont égoïstes. Ils viennent là, ils posent leurs fesses, le match ne se déroule pas, et Djoko, il a toujours
Bien écouté son corps. Je pense pas que tu sens que ça, David.
Non, non, mais si. Djoko, on peut le considérer comme quelqu'un qui s'écoute un peu trop, tu vois. Tu rappelles l'épisode du Covid, etc. Il est déjà sorti en disant voilà, je suis blessé, je le sens pas, etc. Il a déjà joué sur une blessure et pas pu jouer le match d'après aussi. Il l'a montré plusieurs fois. Et là, les gens restent sur leur faim.
Il a aussi abandonné la finale de Roland-Garros sans rentrer sur le court pour blessure aussi. Donc il y a autant de frustration du côté des supporters français. Hein.
Oui, mais de là le siffler, c'est pas bien, quoi. Non, c'est pas honorable. C'est pas correct. C'est ça dont on parle.
C'est
le fait, oui, bien sûr que c'est honteux, c'est scandaleux même de siffler un joueur.
On touche pas une légende en fait.
Mais c'est même pas la légende. On peut pas reprocher à quelqu'un d'être abîmé, de vouloir pousser la machine jusqu'au bout. Et voilà, il va au-delà de la machine. Il essaye de donner le spectacle. Il peut pas le donner. Voilà, il faut le comprendre. À la limite, il aurait dû être applaudi de tout le monde.
Mais moi, je pense pas
qu'il soit cette considération-là.
Je pense pas qu'il soit sifflé parce qu'il est blessé. Hein. Je pense pas que ce soit ça.
Par rapport à la billetterie, il faut rappeler qu'à l'Open d'Australie, je parle sous contrôle d'Eric, il y a une double billetterie pour les demi-finales. C'est-à-dire que ceux qui étaient n'ont pas pu voir la deuxième demi-finale, donc ils sont venus pour une heure.
Mais c'est la même chose comme à Roland-Garros. Hein.
Si l'abandon avait été consécutif à l'appel au médecin, tu vois, là, on aurait compris. On dit, le mec, voilà, il s'en est parmi. Mais là, il perd, il rate une volée, mais qui est immanquable, et basta, dans sa tête, il disjoncte. Terminé. Même Zverev, il comprend pas ce qui se passe. C'est ça qui a choqué les gens. Même nous, aux tribunes de presse, on n'en revenait pas. On dit, mais il arrête, c'est pas possible.
Son corps ne suit pas. Comment tu veux?
Mais je comprends, je peux lui reprocher ça, c'est son raisonnement interne.
C'est la perception. Oui, mais
c'est déjà arrivé que Djoko soit blessé et joue blessé, fasse appel aux soigneurs, au kiné, et puis que parfois il fasse un peu de spectacle et qu'il joue avec ça et que ça déstabilise l'adversaire. C'est déjà arrivé. Là, il ne le fait pas. Donc, pas forcément l'habitude, Simon, sur ce débat.
Oui, tu viens de rappeler, quand il fait appel aux soigneurs, généralement, il revient sur le court et il finit par gagner. C'est la spéciale. Non, comprenez-vous, oui, on les comprend, les ressorts, on sait pourquoi il a été sifflé, ça a été rappelé, il y a le contexte, son histoire un petit peu justement contrastée avec cet Open d'Australie, avec ce pays, le Covid, mais aussi les victoires, le record de victoires. Je les comprends. Mais en fait, on en fait encore une fois trop. C'est le quotidien de ces mecs-là. C'est le sport de haut niveau, c'est comme ça. Quand tu évolues à ces altitudes, t'es sifflé. Ça fait partie du proverbial folklore du sport de haut niveau.
Mais c'est pas dans une habitude, les tribunes,
le match s'arrête. Tu siffles, mais s'il avait contesté une balle ou fait, tu vois, une balle qui pensait faute, ça aurait sifflé aussi. On siffle. Plus t'es un grand champion, plus t'es exposé à ces sifflets. On s'en fout. Je trouve qu'il y a une dramaturgie, tu vois, on en parle comme si le mec arrêtait sa carrière parce qu'il a été, agressé par... Enfin, je veux dire, on en fait beaucoup trop.
Oui, mais c'est le contexte qui fait ça.
Simon, il a été sifflé.
Simon, c'est fait une carrière.
Mais lui aussi, il s'en fout. Vous l'avez rappelé, mais il s'en fout. Il s'en fout. Il est bien au-delà de ça. Et quand Zverev dit,
je crois qu'il est énervé, moi, maintenant, parce que je pense pas qu'il s'en fout.
Ils vont passer à autre chose. Et ça a toujours été le cas. Mais McEnroe est une légende. Il se faisait siffler dès qu'il allait parler à l'arbitre. Ça a toujours fait partie du décorum, du tennis de haut niveau.
tu prends pas en compte le contexte.
Et c'est ça, je pense quoi que tout le monde se prosterne devant Djoko.
Mais c'est pas ça que Djoko, je pense dans sa tête, il allait en finale. C'est, je pense, c'est ça.
Non, non, Denis, bah, il joue pas. Il joue. Non, mais il joue pas le match avant. Non, non, mais il joue pas le match avant de l'avoir joué. Il sait très bien qu'il joue Zverev.
La déception, je te parle.
Il sait qu'il va partir pour 4 ou 5 heures. Il sait qu'il va pas lui mettre 3-7-0 à Zverev.
C'est pas ça que je te parle. Je te parle la déception qu'il a au moment où il voit que son corps le suit plus et qu'il peut plus aller en finale
et qu'il peut plus aller au bout du match déjà. Et qu'il n'aura pas l'essence. Il n'aura pas l'essence dans le moteur. Et il n'aura pas le physique pour tenir, pour revenir d'un set où 1h20 pour faire un set. Il sait qu'il ne tiendra pas sur la longueur.
Donc il se préserve.
Oui, mais
quand même, il n'a pas été sifflé pour ça.
Il n'a pas été sifflé pour ça. Voilà.
Okay,
bon. Il n'a pas été sifflé. Il est diminué, il n'a pas été sifflé pour ça, c'est tout.
Vous avez pu exprimer vos arguments, votre sensation. Après, c'est vrai, cet épisode qui nous a marqué, c'était important d'en venir, d'en parler dans cette émission. Éric Salio, tu es toujours avec nous, évidemment, parce que tu suis actuellement la finale dames. Comment se passe le deuxième set?
Zabalenka fait la course en tête puisqu'elle a breaké Madison Keys, elle mène 2-1, elle a une balle de 3-1, c'est fait 3-1. Mais pour revenir sur le sujet de Joko, il faut quand même se rendre compte que ça fait 5 grands chelems d'affilée où il n'arrive pas à aller au bout. Donc le 25e, il n'y arrive pas. Il y a un blocage aussi. C'est ça aussi qui explique son
corps.
La frustration.
Le blocage. Il a envie de nous donner des débats pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, Eric, de t'occuper de l'éditorial des GG, parce que ça, franchement, on va le faire. Ça, c'est une certitude. Merci, mon cher Eric. On te retrouve dans quelques instants pour la finale dames. Évidemment, 1-7-0 de l'américaine Madison Keys. Les GG contre-attaquent dans quelques instants. Je vous le dis, d'habitude, j'entretiens le suspense, mais là, c'est une raclée. Denis Charvet, plus de 50% pour toi. Les gens veulent parler de Lewis Hamilton et de ses premiers pas chez Ferrari cette semaine. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. À partir de 11h, restez bien avec nous. On ouvre le dossier sur la baisse du budget des sports en 2025. Est-ce incompréhensible? Vous nous donnerez votre avis, les GG, et vous n'êtes pas d'accord sur ce débat. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter, chers auditeurs, depuis une heure sur le compte X des grandes gueules du sport. Et alors franchement, c'est une large victoire, une grande victoire de Denis Charvet. Alors déjà, je vais décerner les places d'honneur. Forcément, avec un maigre bilan, 14% pour Sarah Pitkovski. J'aimais bien c'est ton bien, sujet, ça. Non au casque audio.
Mais c'est des joueurs qui rentrent sur un cours de tennis. Ça peut être un débat caché. C'est ouais. Aussi un débat
Vu
caché.
Comme ça plaît aux gens, je ne sais pas si je vais le faire en débat caché quand même. Hein.
Ouais, 16%. On s'en fiche, nous qui parlons.
16% pour la légende Gourcuff. Ouais. C'est un bon débat en plus proposé
excellent, je te remercie Jean-Christophe. Bah, je vous le resservirai la prochaine fois que tu m'invites.
Avec grand plaisir.
Avec un autre exemple.
Avec grand plaisir. 18% pour le hand français, la voie royale pour les bleus du hand au mondial 2025. Bravo David. C'est une deuxième place avec seulement 18%, mais c'est deuxième.
Non mais je l'ai mal vendu, c'est de ma faute. Je suis pas content de ma présentation. Bon, c'est dommage parce que c'était le vrai sujet quoi.
Bon, faut avouer à demi pardonner. Ouais. Je donne juste l'information. Il y a le dernier match de poule face à la Macédoine aujourd'hui, mais les Bleus sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Et alors là, 52% pour les premiers pas de Lewis Hamilton avec Ferrari. Bravo Denis Charvet. On t'écoute sur ce débat.
Eh ben écoute, ça fait saliver. Je sais pas si vous avez vu les images. C'est invraisemblable. Ils ont parlé d'état d'urgence. Certains évoquaient un état d'urgence à Maranello. Tellement c'était la folie. Il y avait des milliers de tifosi qui sont venus le voir. Alors, le voir en rouge comme ça, c'est vrai que tu te dis, bon, mais l'histoire va être belle, qu'il va être champion du monde à nouveau dans une autre écurie. Moi, je suis un peu sceptique parce que, d'abord, Ferrari n'a pas gagné depuis 2008, je crois. Hein, c'est ça.
Pas chez les constructeurs, hein, en tant que pilote.
En tant que pilote, évidemment. Il est 7 fois champion du monde chez Mercedes. Là, il découvre un autre moteur, un autre ingénieur, un autre environnement. Alors, il n'est pas vieux. Il a quel âge, Hamilton? 30. Il a encore des années devant lui comme pilote, mais à cet âge-là, il faut bien s'adapter, il faut trouver ses marques, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, puis il faut trouver la bonne voiture. Est-ce qu'il aura la bonne voiture? Simon va me parler du nouveau règlement, mais
exactement.
Ça, mais ça, on n'en sait rien. Ça, c'est aussi hypothétique, parce que on ne sait pas qui ça va avantager véritablement. Et puis toutes les voitures.
Non, mais ça va mettre tout le monde sur la même ligne.
Sauf que non, c'est pas sûr, parce que toutes les voitures vont s'adapter et vont trouver des solutions, les meilleures.
Et c'est
celui qui trouvera la meilleure solution qui gagnera. Donc voilà, mais après,
ça serait ou pas?
Mais ça serait fabuleux, mais j'y crois à moitié. Voilà, j'y crois même.
Ok.
Je suis pas sûr.
Il vient d'avoir 40 ans, Lewis Hamilton. C'est le 7 janvier dernier. Il a fait ses premiers pas cette semaine. C'était du délire à Manarello. Délire.
Maranello.
J'ai dit quoi?
Marello.
Manarello.
Je pensais au joueur de tennis, Adrian, ouais. Évidemment. Et donc, c'est vrai que c'était l'une des images fortes.
Ferrari a fait un gros coup parce que là, c'est.
De
c'est
le voir
vrai
en
que...
rouge, hein. Sarah.
Je sais pas. Je sais pas quoi en penser, mais effectivement, quand tu arrives à 40 ans dans une écurie qui a pas de référence sur les dernières années, est-ce que sincèrement Ferrari va chercher Lewis Hamilton pour
gagner des titres ou pour
faire de la com? Parce qu'au moins sur un domaine, on est tous d'accord, ouais. Sur la com, ça va marcher.
C'est fabuleux.
Voilà. Ah oui. Mais je suis pas sûr effectivement qu'on vienne chercher un Lewis Hamilton pour faire regagner une équipe à 40 ans, quoi, où son palmarès est derrière lui. Quand tu vois l'hégémonie de Verstappen aujourd'hui, je sais même pas dans quelle autre écurie il pourrait aller titiller le néerlandais, donc voilà.
Surtout quand on voit Ferrari aujourd'hui avec Leclerc qui arrive pas. Hein. Pour être champion du monde.
Oui, mais ils sont en train d'empiler les bonnes cases, tu vois, les bonnes briques pour justement accéder au moins peut-être à un titre constructeur, parce qu'ils sont pas passés si loin que ça cette année, et puis peut-être aller chercher un titre de pilote. Franchement, Ferrari a beaucoup progressé cette année. Sincèrement, ils sont sur une pente ascendante et pas stagnante ni même descendante.
Et pas pour aller chercher le titre.
Ce qui s'est passé.
On ne sait pas.
S'est passé mercredi matin à Maranello, c'est ce que disait la Gazzetta dello Sport, c'est du jamais vu depuis 25 ans, avec des tifosi venus en nombre pour voir les premiers essais de Lewis Hamilton et ses premiers pas avec la voiture rouge.
Et la photo légendaire, d'ores et déjà, de lui en chic comme le baron rouge, quoi, devant Maranello.
Ça a été la
photo la plus likée de l'histoire du compte de la. La fédération internationale, enfin du compte de la Formule 1. Là où je suis pas d'accord du tout, en effet, c'est que bon, alors déjà on a comparé Lewis Hamilton avec Charles Leclerc. Les oreilles. Hein. On a dit ils ont déjà Charles Leclerc. Alors bon.
Oui. Ah oui. Tu veux dire que
si un mec comme ça inspire pas les équipes encore un petit peu plus qu'un Charles Leclerc, c'est à n'y rien comprendre. En effet, tout va dépendre du développement de la voiture. Et c'est là qu'il y a un petit souci, parce que en allant lire quelques articles depuis ta proposition d'hier, Denis, il y a Frédéric Vasseur, le patron français, qui fait quand même un sacré boulot depuis son arrivée à la tête de l'écurie.
Exactement.
A sorti l'extincteur un petit peu en avance, en disant, écoutez, avec le changement de règlement qui va être fondamental dans le développement des voitures, mais qui prendra effet en 2026, on va devoir arrêter le développement de la voiture 2025 beaucoup plus tôt que prévu. Donc en fait, tout va se jouer dès les premières courses. S'ils sont dans le coup, avec un Lewis Hamilton, moi je considère qu'ils ont leur chance. Ils ont fini deuxième du classement constructeur, mais pas derrière Red Bull, la saison dernière, à 14 points derrière McLaren, qui revenait du diable Vauvert. Et il n'est pas interdit de penser que si chez McLaren, ils ont réussi à passer devant Red Bull, chez Ferrari, c'est pas des pimpins non plus, ils sont capables de le faire. Donc voilà, après il y a la cohabitation entre un Charles Leclerc qui doit se croire meilleur qu'un Lewis Hamilton, ça je n'en ai aucun doute, et un Lewis Hamilton qui va arriver, qui n'a pas l'habitude
d'être... meilleur, mais quand même, Charles Leclerc, c'est un espoir de la Formule 1.
La plus-value. La plus-value d'un Lewis Hamilton, c'est évidemment d'arriver avec tout son savoir, toute son expérience. Il a 40 ans, Charles Leclerc, il a 27 ans, tu vois, donc il est là très clairement pour faire améliorer la voiture, mais aussi pousser Charles Leclerc et lui apporter toute son expérience. Parce que Charles Leclerc, je suis désolé, il peut être champion du monde.
Mais Senna, il gagnait à 27 ans, ça va rien dire.
Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, Frédéric Vasseur a vraiment bien mené sa barque, il a mené Ferrari sur une pente très ascendante, mais là, la décision d'un Lewis dans une écurie comme celle-là, c'est de profiler Charles Leclerc sur un titre de pilote et d'améliorer la voiture pour ça. C'est la stratégie parfaite pour une écurie comme Ferrari.
François nous écrit via le direct studio, il nous dit bonjour les GG, Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est un excellent plan marketing, sportivement je n'y crois pas du tout, il a déjà été mis en difficulté par Russell lors des deux derniers championnats du monde et par Rosberg, je pense que Leclerc est au-dessus d'Hamilton. Voilà ce qu'on dit.
Qu'il était en dessous de Sainz l'an dernier, donc bon.
Ok les copains, bon, je reprends la main, merci Denis pour ce débat, on en reparlera évidemment, la saison débute dans un peu plus d'un mois avec Lewis Hamilton à la tête de Ferrari. Un petit mot Eric rapidement sur le score de cette finale dames à l'Open d'Australie.
1-7-0 donc pour Madison Keys, 6-3 et 5-1 pour Arina Zabalenka. Dans cette deuxième manche, je pense qu'on va avoir une troisième manche exceptionnelle.
Exceptionnelle, merci beaucoup Vincent Moscato. Sort de ce corps, Eric Salio, on le retrouvera un petit peu plus tard. Dans quelques instants, le budget en baisse des sports. Et ça vous fait réagir les GG, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.